Bonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Nous voici avec notre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Vouloir à tout prix empêcher une victime de se défendre est une grande injustice. L'empêcher de s'exprimer est une autre. L'intimider encore plus grave. Vous voyez facilement que cette liste de reproches se lance longue et risque d'interpeller chacun de nous. Autrement dit, les formes d'abus de pouvoir et les injustices dans notre société sont d'un nombre quasiment à l'infini. En revanche, le nombre de victimes, maintenant qui résistent aussi longtemps que possible face à l'injustice et aux abus de pouvoir, est plutôt minime. J'ai envie de dire même rare. Bref, les victimes qui tiennent face à l'injustice pendant des années et des années, infatigablement, sans être démolies, je connais quelques-uns, mais leur vie est toujours dans l'enfer. Donc il y a ceux qui ont perdu complètement la tête, d'autres partiellement, le reste, ils ne sont pas parmi nous aujourd'hui. Et le seul mot que je trouve léger à cette tragédie, c'est le mot triste. C'est vraiment triste. À travers cette tribune, nous invitons les victimes d'abus de pouvoir et des injustices de ne pas baisser justement le bras. Je comprends parfaitement aussi que ce n'est pas aussi facile, mais imaginez-vous, c'est tout le monde abandonne le combat et la lutte contre les injustices, contre les abus de pouvoir. Qu'est-ce qui nous arrivera à nous, à nos enfants, à nos petits-enfants? Quelle sorte de société nous allons laisser aux générations futures? Alors que chaque fois qu'une victime renonce à ses droits, chaque fois qu'une victime s'efface dans le silence et cède son droit, celui de se défendre contre les injustices, la trappe de l'injustice s'ouvre de plus en plus. Elle s'ouvre justement pour intensifier la souffrance aux victimes. Vous allez suivre aujourd'hui le témoignage d'une personne un peu particulière. Ce n'est pas parce qu'elle mène un combat depuis plus d'une quinzaine d'années, mais plutôt parce que malgré les intimidations, malgré les arrestations illégaux, les tribunaux, les jugements des autres, malgré le temps qui passe et repasse, cette personne a décidé de ne pas abandonner la partie jusqu'à la fin. Attention, notre invité n'est pas un rescapé de l'appareil de notre système judiciaire, même s'il avait fait face à maintes reprises à ces institutions stupides par moment. Je vous laisserai à travers cette émission d'ailleurs découvrir une nouvelle forme d'injustice et surtout de découvrir derrière ce personnage ou derrière ce témoignage la personnalité de notre invité, hein, le courage un peu trop juste, voir aussi dans cette histoire le combat illégal entre deux vérités qui disputent leur existence dans notre monde. Qui a raison, qui a tort, la question de savoir qui détient la vérité est finalement un exemple parfait d'un vrai résistant qui nous inspire énormément. Au micro avec vous ce matin, Hadj Zitouni, un militant du MAJ, au mouvement, donc c'était un mouvement de défense des droits de la personne face aux abus de notre système judiciaire. Pour nous rejoindre, appelez-nous au 514-273-4302, je répète, 273-4302, ou nous écrire à info@commercialmaj-quebec.com. info@commercialmaj-quebec.com. Restez à l'écoute, chères auditrices, chers auditeurs. Après notre thème musical, nous reviendrons à notre sujet d'aujourd'hui. Trouver un sens à la vérité, à la justice, un parcours des fois long et coûteux.
C'est une émission formidable sur les problèmes de société. Coup des héros et des minables vous parlent en toute liberté. Sont-ils victimes? Sont-ils coupables? Ce soir, voici pour commencer quelques racketteurs redoutables qui font la sortie des lycées. Ils vont pour vous se mettre à table, à condition d'être masqués. Un témoignage inoubliable, un grand moment de vérité. Ce soir, après la roue de la fortune, les racketteurs sont à la lune. C'est une émission fantastique. Vous avez un rôle à jouer, un rôle moral, un rôle civique pour nous aider à retrouver tous ceux dont on est sans nouvelles, disparus, volatilisés. Ce soir, je vous lance un appel. Vous seul pouvez nous renseigner. Dans quel bas-fond la malheureuse a-t-elle un jour pu s'égarer? À quelle manœuvre très douteuse a-t-elle fini par se livrer? Ce soir, après la roue de la fortune, la main de ma sœur, la main de ma sœur est à la lune. C'est une émission fracassante sur les tréfonds de la société, une tranche de vie saignante que vous ne pouvez pas manquer. Un homme qui a payé sa dette, 20 ans de prison mérité, reconstituera en direct le crime qu'il a perpétré. Tout ce qui se passait dans sa tête, combien de fric il a touché en appuyant sur la gâchette pour refroidir un député. Ce soir, après la roue de la fortune, les assassins sont à la lune. C'est une série faramineuse de grands débats télévisés, de controverses fabuleuses, de face à face sans pitié. Qui saigne et qui charcute, entre bourreaux et torturés, entre un ripou et une pute, un délateur, un dénoncé, entre un para et un felouse, entre un violeur et des violés, et puis comme une apothéose, entre SS et déportés. Ce soir, après la roue de la fortune, un baf obscène est à la lune.
Rebonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Donc, justement, en venant ce matin au studio, je cherchais comment illustrer justement le sujet avec mon invité d'aujourd'hui. Un invité qui est hors commun hein, par ses principes, ses convictions, et je dirais même, et vous allez voir, et peut-être vous allez me donner raison, peut-être, sa détermination hein, de repousser l'injustice, non pas simplement en la refusant, mais de ne pas lâcher prise. Hein. Donc on parle d'un combat qui dure jusqu'à présent, depuis et qui dure depuis plus qu'une quinzaine d'années. Donc je dirais bien, quand Galilée, par exemple, hein, nous a informé que la Terre était ronde, nous ne l'avons pas d'abord cru, parce qu'il n'y a pas de quoi pour faire une histoire de tout ça, mais le problème c'est de nous l'avoir condamné. On a condamné d'être assigné à résidence jusqu'à sa mort en 1642, et parce que nous avons voulu qu'il demeure enchaîné dans la pensée collective. Tout ce qui présente le contraire, l'opposé, le différent, le nouveau, si vous voulez, n'était pas le bienvenu, et voilà comment on tue la liberté de penser chez les individus. Jeanne d'Arc, par exemple, on l'a brûlée pour le simple fait de nous avoir révélé qu'elle entendait des voix, alors qu'elle entend des voix de Dieu ou du diable, ou plutôt une dispute entre les deux. Ça nous dérange en quoi pour aller jusqu'à la brûler vivante? Donc vous comprenez que l'être humain a été un idiot et il continue de l'être jusqu'à présent, et vous savez mieux que moi qu'il ne va pas corriger le tir dans les temps qui viennent. Voilà le côté animal chez l'homme, si cette fermeture qu'il emprisonne dans l'axe du mal. C'est ce côté négatif que nous avons tous en commun, de penser que nous avons raison et que l'autre a tort et qui fait plus de tort que de bien. Donc les guerres injustes qui ravagent les populations et menacent leur existence viennent justement de ce fameux fait avoir raison. Je veux citer des exemples peut-être banals comme ça. Les conservateurs, par exemple, de Stephen Harper, trouvent que l'action militaire en Afghanistan est juste. Alors imaginez-vous que 70% des Québécois disent le contraire. Hein. Qui a raison, qui a tort, qui ne devront croire finalement. Un autre exemple aussi encore plus banal, par exemple le colonel Kadhafi, par exemple. Hein. Il pense que la Libye, après 42 ans de règne, elle lui appartient. Et chacun parmi vous trouvez autour de lui des exemples de ce genre-là. Donc vous apercevez rapidement que le dialogue, hein, tout seul ne suffira pas comme solution, vrai, faux. La question ne se pose même pas aujourd'hui, c'est plutôt notre comportement et nos attitudes qui posent problème. Alors je reviens d'abord rapidement à cette illustration que j'ai évoquée au début de cette deuxième partie de notre émission, une illustration qui nous ramène quelques siècles avant Jésus-Christ, c'était chez les Grecs antiques, et plus précisément à la cité, où d'ailleurs on respecte une sorte de coutume, en accueillant un visiteur, c'était de lui faire visiter d'abord la cité. Hein. Et au cours de l'une de ces visites au centre de la cité, les Grecs avaient réservé une grande place aux différents symboles de divinité. Ils sont exposés. Donc il y avait au moins une centaine de présentations. Et chaque croyance était exposée en signe de liberté d'expression. Et au milieu de ces expositions permanentes, il y avait une place vide. Alors le visiteur avait demandé, cette place vide, elle représente quoi ? Et le guide l'a répondu, c'est pour celui qui avait, plutôt qui vient avec un nouveau Dieu. C'est-à-dire, vous comprenez comment d'un côté ils acceptent d'avance la vérité de l'autre. Ils réservent même un espace sûr pour cette vérité. Vous voyez, mes chers auditrices, chers auditeurs, cette tolérance d'esprit et cette large compréhension qui existait dans un passé lointain, elle est déserte aujourd'hui de notre sphère. Jugée inacceptable dans la pratique, et pourtant nous l'apprécions comme histoire, comme exemple et modèle de réflexion, mais pas plus. Je veux dire aussi par là que nous avons de la difficulté et beaucoup de difficulté à saisir pleinement que la liberté, le respect, la considération de l'autre est capitale pour le bon fonctionnement de toute société et ce n'est pas juste la nôtre. Alors que les guerres se font aujourd'hui principalement au nom des religions, les conflits persistent au nom de la vérité et le problème existant, c'est que chacun de nous porte une vérité différente. Et à force de ce conflit un peu plus exigeant entre les différentes vérités, nous sommes sur le point d'abolir le principe de vérité. Ce n'est pas déjà fait, hein. C'est compliqué. Donc ça veut dire que le mot vérité n'existe plus. Nous vivons dans un univers où des milliers et des milliers de croyances existent et chaque individu, chaque adepte appartenant à l'une de ces croyances est prêt à mettre sa main dans le feu pour celle-ci. Écoutez, mon invité aujourd'hui est très conscient de cette approche et depuis longtemps il essaye d'amener de l'eau au moulin. Je ne vous cache pas la vérité, pour un militant comme moi, j'admire chez lui d'abord son courage. 15 ans de combat. 15 ans, jour après jour. C'est long, très long, 15 ans. Vous allez voir qu'il s'agissait au départ d'un petit conflit de rien entre quelques membres d'un conseil d'administration d'une église et un fidèle. Et ce petit conflit qui représente au départ quelques individus va nous illustrer en minuscule le problème majeur de notre siècle, la perte de la vérité. Donc voilà, bonjour Monsieur Robin Edgar. Vous appartenez à l'église universalisme unitarienne. Est-ce que j'ai appris de vous que les unitariens, essentiellement marqués par un pluralisme, cherchent à dépasser les origines religieuses et culturelles des diverses civilisations? Je sais aussi que vous essayez de rassembler tout le monde, même les athées, ce qu'on appelle un amalgame de croyances où tout le monde participe. Si j'ai bien compris aussi, la pensée universalisme unitarienne cherche de trouver dans ses démarches les principes d'une foi libre. Est-ce que j'ai raison ou j'ai tort?
Je pense que vous avez bien compris les principes réclamés par l'Église. Je pense que c'est une bonne façon de l'introduire. Oui. Évidemment, le problème, c'est qu'ils ne pratiquent pas ce qu'ils prêchent.
Oui, oui, je comprends. Mais monsieur, je répète aussi, monsieur Edgar Romain, vous êtes un Montréalais.
Oui.
Et qu'est-ce qui vous a amené, d'abord, avant de vous poser la question, qu'est-ce qui vous a amené à adhérer à cette église-là? Pouvez-vous nous dire qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette église de l'universalisme unitarien? Moi, je trouve l'idée, elle est excellente aussi. C'est-à-dire, le principe, il est excellent.
Oui.
Vous...
Moi, je suis tout à fait d'accord avec les principes. Mon problème, c'est que, d'après moi, d'après mon expérience, l'église a violé ses principes ou a ignoré ses principes.
Cette église-là.
Oui. L'église locale ici à Montréal, c'est l'église unitarienne de Montréal.
Il y a une seule église à Montréal?
Il y a deux.
Deux églises.
Il y a une autre sur le, à Beaconsfield.
Oui.
Puis il y a une troisième au Québec. Il y a une à North Hatfield, dans les cantons de l'Est. Mais il y a juste trois dans le Québec.
Le Québec.
En Canada, il y a un total de peut-être 40. C'est pas une grande élision.
C'est ça. Mais non, parce que tellement le principe, moi je trouve que c'est bien un principe comme ça, dépasser un petit peu même... Même si dépasser un petit peu la pensée des religions, dépasser, aller un petit peu à chercher à rassembler un petit peu tout le monde. Mais avant de poser la question qui suit, ça date de combien d'années cette
pensée? Ça date de plusieurs centaines d'années, les unitariennes. Les unitariennes, ce sont des chrétiens qui niaient la doctrine de la Trinité. Je pense que même peut-être avant Mahomet, qui a nié la Trinité, il y avait des unitariennes dans un sens. Et effectivement, on peut même dire que...
Ça date depuis très longtemps, si j'ai bien compris.
Ouais.
C'est ça?
Oui et non, parce que... L'idée unitarienne, avec un U minuscule, est très commune. Jésus, dans un sens, était unitarien. Lui, il a croyé dans... C'est-à-dire que la doctrine de la Trinité, c'est quelque chose qui est évolué après Jésus, avec l'Église catholique. Mais c'est ça. Effectivement, au début, les unitariennes étaient des gens... des chrétiens, à l'époque des catholiques, qui niaient la doctrine de la Trinité.
OK, ça, c'est pas important. Mais le plus important, c'est que ça y est comme un creux, il y a un silence, et ça repartit aux États-Unis, si je ne me trompe pas, années...
Dans les années 1700, quelque chose...
Ça repartit de nouveau.
Un Britannique est venu aux États-Unis, Joseph Priestley. C'est lui qui a découvert l'oxygène. Puis c'est lui et d'autres gens qui ont recommencé, dans un sens, l'Église unitarienne en Amérique. Ça existait aussi en Angleterre. En Roumanie, il y avait beaucoup. Il y a encore beaucoup de unitariennes en Roumanie. Mais c'est ça. Ils ont commencé en Amérique dans les années 1700, quelque chose. Il y avait des Américaines prominentes comme John Adams, Ben Franklin... qui étaient soit des unitariennes officielles ou non. Même Thomas Jefferson, il était sympathique aux unitariennes, même s'il restait anglicain. Alors, il y avait des pères de la Révolution américaine, un certain nombre étaient des unitariennes. Puis l'universalisme, ça, c'est une autre branche, une autre secte.
Ce n'est pas la même chose?
C'est deux sectes qui sont réunies en 1961. C'est deux églises distinctes.
L'universalisme et les unitariens.
C'est deux églises différentes qui ont fait...
Et qu'est-ce qui a fait qu'ils se reprochent ensemble?
Je pense qu'ils étaient en train de diminuer. Comme tous les mergers et corporatifs, c'est des compagnies qui sont en faillite. C'est ça. C'est dans un sens ça. Il y avait deux petits religions, petits sectes qui sont réunis pour être plus forts dans un sens.
Peut-être avant de vous demander, vous, pourquoi vous êtes arrivé à cette religion-là, qu'est-ce qui a fait que cette religion qui existe maintenant aux États-Unis, il y a des
quelques centaines d'années.
Combien? Il y a 15 000, des 20 000 adeptes?
En ce moment, en Amérique du Nord, il y a peut-être, en termes d'adultes, 160 000, 170 000 max.
C'est pas beaucoup.
Au Canada, c'est ça. Au Canada, il y a peut-être 4-5 000. Aux États-Unis, c'est 160 en vrai. Il y a aussi des enfants dans le Sunday School, comme on dit en anglais. Peut-être un autre 30, 40 000 total.
Mais Monsieur Edgar, vous n'êtes pas né unitarien, j'imagine.
Pardon?
Vous n'êtes pas né unitarien.
Non, pas exactement. Non, je suis né baptisé anglicain.
OK.
Mes parents étaient pas forts dans la religion, et même peut-être un peu agnostiques. Mm. Mais quand même, comme plusieurs parents, ils ont quand même amené nous
à l'église et tout. Oui,
c'est
oui,
ça.
Oui.
Mais c'était pas quelque chose de très fort dans notre famille.
Mais qu'est-ce que, vers quel âge vous avez commencé à s'intéresser à l'unitarien et...
Ouais, effectivement, j'étais pas très religieuse moi-même au niveau d'aller à l'église, etc. J'avais certaines croyances de base, oui. J'ai toujours croyé dans un Dieu créateur. Ça veut dire que je n'étais pas un athée, mais j'ai questionné des dogmes et tout ça. Alors, dans un sens, j'étais unitarien même avant.
Sans recherche, là.
Ouais, c'est ça. Oui. Mais j'étais pas très religieuse. Puis en 92, j'ai vécu une expérience religieuse très profonde.
Oui.
Et c'est après ça que j'ai cherché une religion, j'ai cherché une église pour essayer de...
Ça veut dire, à partir de 92, vous avez senti un sentiment d'appartenir à une croyance, c'est ça ce que j'ai compris?
Voilà, je réclame une expérience religieuse fort, comme pour un chrétien, ils vont dire « born again Christian », etc. Je parle d'une expérience qui, d'après moi, c'était vraiment... j'ai senti la présence de Dieu.
Ouais.
Et aussi, il y avait comme... Dans un sens, c'était une expérience révélatoire.
Oui, oui, ça, c'est clair. Ça. Mais ce que je veux savoir, il y avait plusieurs... il y avait l'Église devant vous. Qu'est-ce qui vous a amené à appartenir à l'unitarien?
Ouais, ça, c'est le... au début, j'ai approché des églises chrétiennes.
Différentes églises.
C'est ça.
Oui, oui.
Et aussi, j'ai parlé avec des rabbins juifs, etc.
Oui.
Et aussi des musulmans, etc.
C'était
j'ai cherché pour une église. Puis, la chose, c'est que dans mon expérience, il n'y avait aucun sens de la Trinité. Et j'ai même questionné ça avec les chrétiens. J'ai questionné la doctrine de la Trinité. Puis, alors, c'est dans un sens, c'est les chrétiens qui m'ont pointé vers les unitariennes. Ils ont dit, toi, tu dois aller chez les unitariennes parce que tu crois pas dans la Trinité. Alors, allez-y vers les unitariennes. Parce que dans leur tête, et historiquement, les unitariennes sont des chrétiens qui croient pas dans la Trinité.
La Trinité, oui.
Sauf que ce que j'ai trouvé quand je suis allé visiter l'église unitarienne, c'est que j'ai trouvé, à ma surprise un peu, qu'ils avaient dans l'église des athées.
Oui, je sais,
c'est des gens qui
ne
croient pas en Dieu. Le mot unitarienne,
oui,
ça veut dire un Dieu.
Ça
vient de ça, un Dieu unique.
Unique, oui.
Puis dans l'église, il y avait des gens qui croient
pas du tout. C'est des athées.
Alors, c'était un peu étrange.
Mais c'est merveilleux, non?
Oui. Ouais. Ouais, dans ce sens, au niveau.
Chacun a le droit, oui.
Ouais, c'est ça. Au niveau idéalistique, d'être capable de rassembler les gens, comme on a parlé, c'est une bonne chose si les croyants et les athées peuvent travailler ensemble pour améliorer le monde et tout ça. Alors, moi, j'avais pas un problème en principe avec les athées dans l'église.
Non, mais on n'a pas encore rendu à votre sujet de fond, mais on tourne toujours autour de ce unitarien pour que les auditeurs et les auditrices comprennent un petit peu ce point, parce que pas tout le monde qui connaisse le...
Moi, c'est ça. Dans un sens, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que d'après mes recherches, après que j'ai trouvé...
Ça veut dire, vous n'êtes pas venu comme ça, vous avez cogné la porte de l'église de votre entrée. Non, il fallait vraiment des années, de temps, de recherche
et tout. Pas beaucoup d'années, mais...
Mais de temps de recherche, vous avez quand même pris le temps de rechercher.
C'est ça, j'étais en train de chercher pour une religion dans lequel je peux...
Exercer, sentir à l'aise, quoi.
C'est ça, et c'est ça, à l'aise et aussi avec intégrité. Ça veut dire que j'ai pas pu être un chrétien parce que je crois pas dans la doctrine de la Trinité.
Ouais.
Alors, c'est impossible d'être un chrétien si tu crois pas dans
la
Trinité. C'est ça. Alors, pour mon intégrité personnelle, j'ai cherché une religion dans laquelle je peux...
Ça, c'est clair. Mais là, vous êtes rentré dans l'unitarien vous sentez à l'aise. Vous avez, j'imagine, vous avez commencé à pratiquer et ça vous a donné quoi au départ?
Dans un sens, l'église unitarienne, dans le service et tout ça, dans le, oui. le c'est très proche d'une église chrétienne quand même, la façon de présenter
l'approche et tout,
c'est ça. C'est très semblable. Quand j'ai joigné l'église en 1993, le pasteur était un unitarien chrétien. Ah. Alors,
Là, c'est clair. Parce que là, on va rentrer directement dans le conflit, dans le problème réel, votre problème avec l'Église et tout. Et vous allez voir, mes chers auditrices, chers auditeurs, vous allez être vraiment étonnés d'entendre l'histoire de Monsieur Edgar. On va faire une pause musicale. Après ça, suivi d'une pub, d'une publicité, et on revient à notre sujet d'aujourd'hui.
J'arrive à me glisser juste avant que les portes ne se referment. Elle me dit quel étage et sa voix me fait quitter la terre ferme. Alors, les chiffres dansent, tout se mélange. Je suis en tête à tête avec un homme. Je sens la chaleur d'un autre langage. Alors, les yeux rivés. Cet ascenseur, j'arrive à me glisser juste avant que les portes ne se referment.
Le 2 mai prochain, les Canadiens seront appelés aux urnes. Et pour vous aider à bien comprendre les enjeux de cette nouvelle élection, la salle de presse de Radio Centre-Ville vous offre tous les jeudis de 11h à midi l'heure des choix. Une émission qui vous fera voir la campagne électorale sous un autre œil. C'est donc un rendez-vous à l'heure des choix tous les jeudis jusqu'au 28 avril de 11h à midi sur les ondes du 102,3 FM Radio Centre-Ville.
Tout va mieux quand nous adaptons les soins hospitaliers aux besoins des enfants. Opération Enfant Soleil, parce que les petits miracles n'arrivent pas seuls.
Pour être bien informé sur ce qui se passe en Haïti et partout dans le monde, branchez-vous sur Magazine Créole, 102.3 FM, Radio Centre-Ville, tous les dimanches, 8h PM.
Magazine Créole, une émission chic-chic-choc. Nouvelles locales, nouvelles nationales, nouvelles d'Haïti. Et tous les points chauds qui ont marqué l'actualité avec Robinson Élisée et Reynold Alexandre.
Amis camarades, rendez-vous cassé.
Vous avez une soif inaltérable de savoir? Voyagez avec nous vers des contrées inconnues. Radio Centre-Ville vous emmène au cœur de l'action politique, sociale, culturelle et musicale du monde. Syntonisez Radio Centre-Ville au 102.3 FM et sur le câble au 88.3.
Donc voilà, monsieur, je reprends avec vous, mes chers autrices, chers auditeurs, on reprend notre entrevue avec notre invité, monsieur Edgar Robin. Ah, Robin. Vous avez, c'est-à-dire officiellement, vous êtes devenu membre de l'église unitarienne en 93, hein,
c'est ça.
Et vous avez commencé à pratiquer, à assister, c'est bon, mieux comme ça, assister. Et ça a été bien jusqu'à en 95, c'est ça?
Ouais, ça a été bien, on peut dire. Il y avait des tensions, parce que le tension qui existe... C'est parce que, comme on a dit, l'Église accepte des athées.
Oui. Elle n'accepte pas les athées, elle n'accepte pas juste les athées.
C'est ça, tout le monde, mais c'est ça.
Elle accepte tout le monde.
Oui,
hein?
c'est dans un sens, ça accepte tout le monde, oui. Mais ça inclut les athées. C'est peu... qu'est-ce que je peux dire? C'est, quand on pense à une église, on ne pense pas à la présence des athées.
Et comme juste entre parenthèses, oui. Si j'ai bien compris, même une fois, vous m'avez dit que même un pasteur, il peut être athée.
Exact.
My
oui.
God.
Oui. Non, c'est ça, on pense. Et le problème, c'est... Moi, je n'ai pas un problème avec les athées.
Non, c'est parfait. C'est moi, ça, je trouve c'est une croyance. Hein, l'athéisme,
oui,
c'est une croyance.
C'est ça,
je suis tout à fait d'accord. Il y a maintenant de plus en plus de gens qui sont athées. Mm. Alors, de toute façon, c'est la liberté. Moi, je trouve que c'est bien
c'est
aussi.
S'ils se sentent
à l'aise dans cette croyance-là, qui est l'athéisme, ben, c'est bien. Mais de toute façon, être athée ou être croyant, c'est tous les deux, pose une difficulté à l'homme, hein, présentement. C'est pas facile d'être croyant, c'est pas facile d'être athée. Et le pire, être au milieu.
Le problème, c'est l'intolérance. Et il y a certainement l'intolérance des croyants envers les athées, ça existe, ça c'est clair.
Non, mais
il y a aussi l'intolérance de pas tous les athées, mais il y a certains genres d'athées qui pensent que si tu crois en Dieu, t'es stupide, t'es fou, t'es malade mental.
T'es faible,
c'est ça.
T'as besoin
et
de...
le problème que j'ai trouvé, c'est que l'Église unitarienne accepter ce genre d'athée, non seulement comme membre, mais comme pasteur.
Oui, ça, ça me dépasse, moi.
Quand j'ai joigné l'Église en décembre 93, le pasteur, c'est un pasteur temporaire pour un ou deux ans.
Oui.
Et lui, il était de croyance unitarienne chrétien. Ça veut dire qu'il était un chrétien qui était quand même chrétien, mais qui niait la doctrine de la Trinité. Mais il croyait en Dieu, il croyait en Jésus-Christ et tout ça.
Et c'est excellent.
Et j'ai eu aucun problème avec lui. Il était très, je ne sais pas comment le dire, supportive.
Supportive.
C'est ça. Il était très accueillant aussi. Alors, j'ai pas eu de problème avec lui. Mais il y avait des athées, membres de l'Église, qui étaient des athées intolérants. Et eux, ils ont essayé de bloquer les choses que j'ai essayé de faire.
Oui. Mais maintenant, je reviens toujours en 95, parce que ça, ce qui est important. Vous arrivez en
94.
À 94, vous pratiquez, vous restez là-bas. C'était un peu de moins en moins bien ou bien, si c'est pas important. Oui. Mais arrivant en décembre 95, vous êtes arrivé avec une idée, une proposition, si je me trompe pas. Au comité d'éducation religieuse et vous avez demandé est-ce que c'est possible qu'on peut faire une fête ou un rassemblement où toutes les religions et toutes les croyances peuvent participer. C'est ça votre idée. Hein?
Effectivement. Moi, ce que j'ai proposé et c'était inspiré par mon expérience religieuse, c'était une fête interreligieuse lié à l'éclipse totale du soleil. Alors, chaque fois qu'il y a eu une éclipse totale du soleil dans le monde, que les gens vont
se rassembler
et parler de la place de l'humanité dans la création, dans l'univers.
Vous avez voulu créer un anniversaire comme ça, une fête
Et aussi, avec l'accent sur le l'environnement et tout ça, parce qu'on est en train de détruire la Terre, etc. Alors, c'était pour essayer d'encourager les gens à travers la croyance religieuse, de traiter la Terre un peu mieux.
c'est parfait.
C'était un Earth Day spirituel.
Je pense aussi que c'est une tentative qui a été quand même à plusieurs reprises, qui était déjà avant. Mais ça reste toujours que votre proposition a été quand même approuvée par le comité d'éducation religieuse.
Oui, c'est ça. En 1994, je l'ai célébré avec succès avec l'autre pasteur, le pasteur chrétien. Oui. Il était supportif, comme j'ai dit. Ça a été approuvé, ça a été célébré. On avait musulmans, on avait des hindous, on avait des...
Toutes les religions, quoi.
Pas toutes, mais on avait un
maximum.
Et j'ai invité les athées...
De participer.
De l'église, de participer, sauf que eux, ils ont refusé.
ils n'ont pas voulu participer.
Ils étaient intolérants, ils ne voulaient pas mêler avec Dieu et tout ça.
Et pendant ces fêtes-là, au cours de ces fêtes-là que vous avez proposées, est-ce qu'il y avait, il y aura un discours, il y aura des ateliers, des idées, chacun présente son...
C'est ça, chaque religion avait présenté leur point de vue. On avait même des païennes qui ont présenté même toute une cérémonie païenne pendant un banc d'Amiya, juste ça. On avait des danseurs classiques hindous, alors ils ont expliqué les croyances hindous concernant la création, mais ils ont montré une danse de création de Shiva.
Divinité, alors, comme ça, oui.
C'est ça, exact.
Tout ça, c'était le but, de dépasser un petit peu le conflit religieux, quoi, le conflit de croyance.
Effectivement, c'est ça, c'était de...
Pour rassembler, quoi.
Exact, c'est ça.
L'idée, elle est... De toute façon, je ne sais pas si j'ai raison, j'ai tort aussi, j'ai peur de dire que j'ai raison. L'idée, elle peut être merveilleuse. Enfin, donc, vous... l'idée, elle est approuvée par le comité d'éducation religieuse et une fois elle était approuvée, il fallait qu'elle soit approuvée par le conseil d'administration de l'Église.
Maintenant, on parle de la deuxième
étape.
C'est
ça,
la deuxième fois. C'est ça. Alors, j'ai voulu célébrer ça en 95, an après. Il y avait une autre éclipse totale en, je pense, novembre 95. C'était peut-être octobre.
Vous avez redemandé la même
exact,
proposition.
Exact, c'est ça. Puis... ça a été approuvé à l'unanimité par le comité de l'éducation religieuse de l'Église. C'est pas beaucoup de monde, mais c'est peut-être 3-4 gens.
Mais c'est le comité, c'est ça.
C'est ça, c'est un comité a approuvé ça comme une activité d'éducation religieuse adulte.
Alors, parfait.
À
l'unanimité.
C'est ça. Sauf que je savais très bien qu'il y avait d'opposition dans l'Église.
Conseil d'administration?
C'est ça. Le conseil d'administration et le nouveau pasteur aussi, le nouveau pasteur qui est rentré, monsieur Reverend Ray Drennan.
Oui.
Il est entré en septembre de 95. Lui, je pense qu'il était opposé à ça, avec d'autres athées dans l'Église.
Donc, si j'ai bien compris, ils ont rejeté l'idée. Hein?
Donc, la proposition, elle est rejetée. La chose aussi, c'est que ça a été fait dans une façon antidémocratique.
Oui, c'est ça.
L'Église réclame d'être démocratique, sauf que quand ils ont fait cette décision, moi, j'étais barré de la réunion.
Vous n'avez pas participé.
C'est ça, j'étais pas capable de parler. Oui. Puis ils ont fait ça tout en secret.
Oui.
Il n'y avait même pas une mention dans le
ils n'ont pas mentionné.
Complètement en secret. Puis ils ont rejeté...
Ça veut dire qu'il y avait quand même une part de membres, de fidèles qui étaient d'accord, mais on n'a pas pris en considération leur droit de vote ou leur droit...
Effectivement, comme j'ai dit, il y avait des gens dans l'Église qui étaient pour, il y avait des gens dans l'Église qui étaient contre. Les gens qui étaient contre, ils avaient contrôle de la conseil.
Ça, c'est clair. Donc maintenant, une fois que le conseil d'administration a rejeté votre demande, pour vous, c'était quoi? Une déception ou quoi?
C'était une déception, surtout parce que c'était déjà célébré une fois avec succès. Alors pourquoi?
Vous ne comprenez pas pourquoi on a rejeté cette fois-là.
Et c'était non seulement ça, c'était la façon antidémocratique dans laquelle ils ont rejeté ça qui m'a causé des problèmes. C'est une chose si c'est un procès ouvert, puis c'est rejeté. C'est une autre quand c'est tout en secret.
C'est bien.
Tu peux rien dire.
Donc vous avez commencé qu'on continue quand même à assister, même s'il y avait un rejet.
J'ai porté plainte concernant ça. J'ai écrit une lettre au conseil de l'administration.
Pour leur expliquer.
J'ai dit que c'était pas correct de faire ça comme ça.
Ça veut dire finalement, vous n'étiez pas convaincu, quoi.
Ouais, j'ai dit que c'était antidémocratique. J'avais pas
le droit de parler, de prononcer.
J'étais silencé, etc. Ouais. Alors, c'est ça. Ouais.
OK. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il y avait comme réponse?
Effectivement, ils ont rejeté.
Ils ont ignoré votre plainte.
C'était pas complètement ignoré, mais. OK.
Oui. Mais qu'est-ce qui est arrivé après?
Bon, c'est ça. Un mois après, j'avais une réunion avec le pasteur lui-même.
Oui. Vous avez demandé de le rencontrer?
Oui, parce que j'ai voulu, dans mon appartement, j'avais une exposition d'images qui expliquait comment les éclipses ont influencé les religions, etc., qu'il y avait du symbolisme religieux perceptible dans l'éclipse du soleil, ça a influencé les religions. J'ai voulu lui montrer ça, pour essayer de lui expliquer qu'est-ce que j'étais en train de proposer.
Donc, tu as voulu quand même le convaincre comme quoi l'idée, elle est pas mal. Et
c'est ça. Oui.
Donc, est-ce qu'il est venu à la visite?
Il est venu et il était très fâché parce que c'était le jour après que j'ai porté plainte contre le conseil d'administration.
Donc, il arrive un petit peu frustré, oui. J'imagine?
Fâché, effectivement.
Fâché.
Oui.
Et qu'est-ce qui s'est passé?
C'est ça. La réunion était supposée d'être pour discuter qu'est-ce que j'étais en train de faire.
L'exposer.
Lui, il a voulu discuter ma plainte immédiatement. Pris contrôle, il a dit pour l'instant qu'il y avait des menaces dans la plainte. C'était pas tout vrai. J'ai simplement dit que je vais peut-être écrire au conseil d'administration aux États-Unis, au Canada, si c'est pas réglé.
C'est tout.
Puis, après ça, il a voulu partir. Et j'ai dit, une minute, là...
Je vous explique un petit
peu. C'est ça, vous êtes ici pour une raison.
Oui.
Et c'est pour expliquer mon
chose. Vous l'avez exposé un
petit
peu.
C'est là où les problèmes ont vraiment commencé. Parce que j'ai commencé à essayer d'expliquer les choses à lui. Puis il a dit, c'était tout en anglais, il a dit, c'est tout silliness and fantasy. Ça veut dire que c'est des bêtises, c'est des délusions, etc.
C'est des illusions,
c'est
ouais.
ça, exact. Puis, moi, je suis quelqu'un qui est très calme. J'ai continué.
Oui.
Et j'ai commencé à expliquer l'expérience religieuse que j'ai vécue.
Oui.
Puis il m'a interrompu, puis il a dit, you mean your psychotic experience.
Ah, ben,
ça veut dire votre expérience psychotique. Vous êtes psychotique, allez voir un psychiatre.
Un psychiatre. C'est ça qui est le problème.
Pas fini là. Il y avait une troisième chose.
Oui.
J'ai essayé d'expliquer la fête interreligieuse que j'ai célébrée, Creation Day. Et quand j'ai commencé à parler de ça, il m'a interrompu une autre fois. Il a dit, you mean your cult. Ça veut dire votre secte.
Ouais.
C'est extrêmement péjoratif. Quand on dit cult en anglais ou secte en français, on pense immédiatement au temple solaire
et
toutes les choses comme ça.
Je comprends très bien. Écoutez, chers autrices, chers auditeurs, restez à l'écoute parce que vous allez voir la continuité. Vas-y chez un psychiatre, vous allez voir comment on va faire de Monsieur Edgar Robin quelqu'un qui on va faire de lui quelqu'un comme quoi, quelqu'un qui n'est pas normal, et ça ne va pas arrêter juste au niveau de l'église, ça va être aussi la SPVM, mais ça va aller devant la cour. Restez à l'écoute, après notre pause musicale, on va revenir avec notre invité pour la continuité de notre entrevue.
Alors que je t'aime un peu plus fort, mais il m'aime encore. Et moi je t'aime un peu plus fort, mais il m'aime encore. Et moi je t'aime un peu plus fort, mais il m'aime encore. Et moi je t'aime un peu plus fort, malgré ça il m'aime encore. Et moi je t'aime un peu plus fort, mais il m'aime encore. Et moi je t'aime un peu plus fort.
Tiens. Rebonjour, chers auditrices, chers auditeurs. Donc, on revient avec monsieur, c'est Edgar, hein, Edgar Robin. Donc, vous avez vu que, parce que il avait lancé cette invitation, il avait fait une proposition à l'Église d'inviter le maximum de personnes de différentes religions et différentes croyances sur le même toit, une journée pour fêter, célébrer, je sais pas, faire des échanges et dialoguer. Ben voilà, donc, avec ça, on va faire de lui un fou, quoi. Vous allez entendre comment le pasteur, dès le départ, va lui demander d'aller visiter ou d'aller consulter un psychiatre. Est-ce que c'est ça, M. Edgar?
Ouais, plus ou moins. Je pense que la chose plus importante, c'est que c'est pas juste le fait interreligieux. Lui, il a traité ça comme un cadre, comme
oui,
un sexe,
un sexe,
c'est
oui,
ça, très péjoratif. Mais il a traité moi comme un malade mental, c'est parce ça. Que moi, je réclame une expérience spirituelle, une expérience religieuse très profonde. Alors, dans sa tête, parce que lui...
Excuse-moi, M. Gare, mais vous n'avez pas venu avec une idée pour changer les principes de l'Église ou les dogmes de l'Église?
Non,
vous,
pas du tout.
D'où c'était une seule journée par année, ou je ne sais
oui,
pas,
oui.
Pour faire un rassemblement, oui. Inviter
oui,
tous les,
tout dans,
les croyances,
des,
c'est tout.
Tout ce que
et
j'ai
ça,
demandé...
Et ça, c'était un principe qui était déjà dans les itinéraires, oui, oui, c'est ça?
C'est ça.
Donc, oui.
Le problème qu'on a, c'est que c'est une église qui veut pas pratiquer ce qu'il prêche dans le pliant et tout
c'est ça.
Il dit une chose à la public, puis
en réalité, la pratique c'est autre chose.
C'est ça,
la
exact,
théorie.
Mais c'est pas la seule église qui fait ça.
Ouais, ouais.
Mais de toute façon, c'est ça. J'ai été traité comme un malade mental par le pasteur parce que je réclame une expérience religieuse. Parce
ouais.
que comme j'ai expliqué. L'Église accepte des athées, non seulement comme membre, mais comme pasteur. Et j'ai trouvé à ce moment-là que lui, il était évidemment un athée, et non seulement un athée, mais ce que moi j'appelle un athée fondamentaliste.
Oui, c'est ça.
Ça veut dire un athée qui est tellement convaincu que Dieu n'existe pas, que les gens qui pensent qu'ils ont eu une expérience de Dieu... sans délusionnel. Il ne peut pas avoir expérience religieuse parce que Dieu n'existe pas. Alors, il sent des fruits. Alors, il était comme ça. Et c'est pourquoi il m'a demandé de chercher...
Et ça, c'est un pasteur.
Oui, le pasteur de l'Église.
Et qui
oui.
est là pour oui. donner la morale oui. et
exact,
pour...
Exact.
Ouais, c'est bon,
était,
c'est parfait.
Et en théorie, il est supposé d'être... ouverte et tout ça. Et c'était l'inverse. C'était complètement... C'était l'inverse.
Donc, ce n'est pas juste les religieux qui sont fanatiques un petit peu, c'est les athées aussi.
Oui, effectivement. On peut parler de Staline, on peut
ouais,
parler
Staline,
de
ouais.
c'est ça, des athées purs et durs communistes qui ont écrasé des églises et tout ça. Dans un sens, c'est un peu comme ça, mais en microcosme.
Mais parce que l'exemple ici qu'on a, on a un pasteur dans une
oui,
église qui est athée.
Ça,
c'est nouveau, ça,
oui,
pour moi,
c'est
personnellement.
Ça, c'est très commun dans les unitariens universistes.
Oui.
Je ne sais pas quel pourcentage des pasteurs sont des athées, mais c'est beaucoup.
Oh my God.
C'est facilement 20-30% des pasteurs unitariens universistes qui sont
athées.
Des athées. Et c'est même possible que ça va jusqu'à 60-70. Et comme je dis, moi, j'ai pas un problème avec des athées modérés, les athées qui respectent les croyants et tout ça.
Oui.
Mais le problème, c'est qu'il y a certains athées qui sont intolérants. Ils sont acceptés comme pasteurs, comme membres de l'Église.
Revenons, monsieur Edgar ouais. Robin, revenons à la visite du pasteur chez vous. Donc,
ouais.
ça, c'est fini.
Ça a commencé mal, ça a fini mal.
C'est ça.
Quand il était en train de partir, il a répété que le fait interreligieux que j'ai voulu
la proposition,
promouvoir,
oui.
c'était un culte. Il a répété le mot 3, deux, trois fois, ouais. en train de partir. Alors, alors, c'est ça. J'ai porté plainte contre lui. J'avais pas le choix.
Ouais. Vous avez écrit à qui?
J'ai écrit à le conseil
suite à la visite, hein?
de l'Église.
Suite à la visite, hein?
C'est ça. Mais un couple de mois après, c'était très difficile. Il m'a traité comme un malade mental.
Il a
traité le fait religieux comme un culte. C'était un peu trop. Alors, avant de porter plainte, j'ai parlé avec un avocat.
Oui.
Parce que j'ai voulu que l'avocat écrit la lettre pour moi, pour que tout est bien et qu'il n'y ait pas de problème. L'avocat a dit qu'il ne peut pas le faire, mais il m'a avisé de voir un psychiatre quand même.
Ah, il vous a demandé même l'avocat d'aller voir un psychiatre pour...
L'avocat a dit, avant de porter plainte, aller à un psychiatre et...
Consulter un psychiatre pour prouver que tout doute que vous n'êtes pas un malade mental.
Exact,
oui.
C'est ça. Okay. Et c'est ça que j'ai fait.
Vous êtes allé consulter un psychiatre.
Oui, oui. Puis il n'a trouvé aucune trace de psychose dans moi. Il a même dit que j'étais évidemment en bon état mental.
Oui.
Il a écrit une note pour le bon pasteur. Mais quand même, je dois expliquer que il y a eu le délai, sauf que le psychiatre est allé en vacances. Alors, j'ai porté plainte même avant de recevoir ce note.
Oui.
Mais j'ai su que c'était en train de venir. Alors, j'ai porté plainte dans le 14 février 96.
Et la plainte, ça donnait quoi, la plainte?
Ouais, j'ai parlé de tout ce qu'on a déjà parlé et d'autres choses qu'il a fait aussi. J'ai monté comme toute
l'histoire. Est-ce que vous avez eu une réponse?
Oui, comme prévu, le conseil de l'administration de l'Église
a rejeté aussi.
Okay.
Ça c'est clair. Maintenant, vous allez quand même été, vous êtes allé revenu à l'Église, j'imagine.
Mm-hmm. Ouais.
Et c'était quoi? Vous protestez ou?
Oui, non, pas immédiatement. Il y avait un problème à régler. J'ai envoyé des copies de mon plaint à les bureaux à Toronto et Boston de l'Église. Il y avait des bureaux nationaux canadiens et américains.
Oui.
Et j'ai envoyé au président canadien et américain.
Pour les informer ou pour une autre plainte?
Non, c'était la même plainte. C'était pour leur informer.
Une copie
moi, j'ai voulu qu'ils gardent un œil sur ça pour
c'est
que...
Ça. C'est ça, qu'est-ce qui se passe? Oui,
sauf qu'eux aussi, ils ont tout rejeté. Alors, c'était tout un... Mais ils ont référé ça à la congrégation. Ils ont dit qu'il faut régler ça au niveau de la congrégation. Alors, en tant que le conseil a rejeté ma plainte, la prochaine étape dans une église démocratique, c'est de parler aux membres de l'église. Et c'est ça que j'ai fait. Alors, j'ai fait un petit annoncement durant une section... de la service où c'est possible de faire ce genre de choses.
Vous l'avez fait.
J'ai brièvement expliqué qu'est-ce qui s'est passé. Hein. Très bien. Et j'avais une lettre de deux pages que j'ai distribuée après.
Qu'est-ce qui est arrivé après?
Immédiatement. Ça, c'était en 96. Printemps de 96. Ouais. Puis...
Ça donnait quoi?
J'ai distribué des lettres. Pas grand-chose. Il y avait des gens qui étaient cancellés, mais rien se passait. Ils n'ont pas fait grand-chose.
Oui.
Alors, moi, j'ai simplement continué à distribuer les lettres.
Oui.
Puis l'Église, à un moment donné, le conseil de l'administration, ils ont dit que c'est disruptive behavior. Ils ont
interdit, oui.
C'est ça. Ils ont dit
Oui. Mais après ça, ils vous ont interdit plusieurs fois. Et qu'est-ce qui est arrivé après?
En 98, l'été de 98, j'ai commencé à protester devant l'Église.
Vous avez commencé à protester
devant
l'Église. Et c'est là où ils ont fait venir la police?
Oui, okay. C'est ça.
D'après ce que j'ai bien compris, à presque 60 fois, les policiers sont venus, intervenus, parce que vous étiez devant l'Église.
Ouais, je ne sais pas combien de fois, mais c'est beaucoup. On parle d'un conflit au niveau de protestes publics, ça date de 1998.
C'est
un bon 13 ans.
Ouais.
Alors,
donc, il y avait même des arrestations.
Oui.
Ils vous ont arrêté.
Oui.
Une arrestation. Menottés.
Oui.
Et pourtant, vous ne faisiez rien du tout.
Moi, je fais un proteste public qui, d'après moi, est complètement légal.
Légal, oui. Ouais. Vous étiez allé à la cour. À un moment donné, vous étiez allé à la cour pour ça.
Bon,
l'Église vous a amené à la cour.
En 2000, en décembre 2000, j'étais arrêté pour nuire à un service religieux. Il y a une loi criminelle qui dit que tu ne peux pas nier...
Finalement, ils ont tout cherché, tout.
Ouais.
Et vous étiez à la cour et vous avez expliqué votre cas au juge.
C'est
et il vous
j'étais
a...
acquitté.
C'est acquitté. C'est normal, vous êtes acquitté parce que vous n'avez rien fait.
Ouais. Exact.
Et jusqu'à maintenant, vous continuez votre combat?
Oh oui, 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 oui. C'est ça, et nous sommes ici à cause du... du détective.
Oui, maintenant, c'est vrai maintenant qu'il y a, il y a aussi le service de SPVM, surtout le Scott Daira,
ouais.
Qui est du poste 11, qui lui-même, il vous a traité de malade mental.
Oui.
À deux reprises.
Oui.
OK. Et comment vous voyez tout ça, là?
Ouais, c'est ça pourquoi nous sommes ici. 15 ans de protestation. C'est pourquoi j'ai approché... Mouvement Action Justice.
Oui.
Parce que je pense que ça va un peu trop loin quand... un policier traite comme un malade mental. C'est ouais. pas, il n'a pas dit, je pense que tu es peut-être un malade mental. Non. Il a dit, you are mentally ill. Puis il a répété ça plus tard.
Deux reprises, trois reprises, oui. Oui. Mais je comprends. Écoutez, malheureusement, tout ce qui nous reste de notre temps, mais on va peut-être essayer de refaire une autre émission avec vous.
Je pense que c'est une bonne idée. Parce que
on va juste de commencer, mais je pense qu'on va refaire une émission avec vous pour compléter un petit peu ce que vous avez à nous dire aujourd'hui. C'est important. Écoutez, voilà donc, c'est tout ce qui nous reste de notre temps, malheureusement. J'aimerais remercier pour cette première partie Monsieur Robin Edgar et saluer chez lui son courage, sa détermination. Nous allons... c'est sûr, nous allons vous appuyer. On va vous inviter la semaine prochaine pour continuer votre témoignage. C'est très important. Merci à Mario Longuet, notre technicien de son, qui va nous quitter pour la France, son pays d'origine. Nous lui souhaitons beaucoup de bonheur. Elle nous a aidé par son savoir à travers cette émission. Nadia prendra la relève. Donc, merci à Radio Centre-Ville 102.3 FM de nous avoir cédé cet espace pour que la parole de l'autre existe. À moi, donc, je vous dis à passer une excellente fin de semaine et à la semaine prochaine. On va sûrement revoir et continuer notre témoignage avec M. Edgar Robin. Et à la prochaine.
Bateau qui mène au pays des rêves, là-bas où il fait chaud, le ciel n'a pas pareil. Tu sais qu'au bout de cette terre, oui, les gens s'aiment, des milliers de graines de joie qu'on pousse. Ici, la haine, on m'a bédé, petit gars, là-bas, on t'enlève tes chaînes, te donne une vie sans Dieu, t'es dans l'arène. Comme ici, tout petit, après 9 mois à peine, on te plonge dans une vie où tu perds vite ta laine, l'encens.
Je suis tellement contente parce que, grâce à la loi sur l'équité salariale, c'est comme si ma mère avait récupéré 10 ans de sa vie au travail.
Ces 10 dernières années ont été riches en émotions. Avec la loi sur l'équité salariale, vous pourriez obtenir un ajustement salarial rétroactif allant jusqu'à 2001. Vérifiez si vous y avez droit. C'est confidentiel.
C'est toujours mieux de vérifier. Juste pour être sûr. Sûr, sûr, sûr.
Faites valoir tous vos droits avant le 30 mai 2011. Un message de la Commission de l'équité salariale.
Devenez bénévole. Vivez une expérience d'échange, de partage et de rapprochement interculturel entre Québécois de toutes origines et nouveaux arrivants. Le CANA recherche des bénévoles pour accompagner les nouveaux arrivants dans leur processus d'intégration via des activités socio-culturelles. Renseignez-vous sur le jumelage interculturel au 514-382-0735, 514-382-0735, poste 225, ou sur www.cana-montréal.org.
Une élection fédérale aura lieu le lundi 2 mai. Conservez la carte d'information de l'électeur que vous avez reçue d'Élections Canada. Elle vous indique où et quand voter. Si vous n'avez pas reçu votre carte, contactez dès maintenant Élections Canada. Pour voter, vous devez prouver votre identité et votre adresse. Pour plus d'informations concernant le vote, visitez www.élections.ca ou composez le 1-800-463-6868. Voter, c'est choisir son monde.
Ici Michel Bambara. Vous écoutez Radio Centre-Ville 102.3 FM. Ma gang de chanceux. Veuillez qui plage, tu sais.